Le journal Loïc Barrière. La Libye a rapatrié dans leur pays 127 migrants gambiens, un vol humanitaire décidé après la conférence internationale pour la stabilité de la Libye. Le président Kais Saied a confirmé qu'un dialogue national aurait lieu autour du système politique tunisien. Le Liban est un pays fragile, affirme Hikmat Abou Zeid, auteur du livre La révolution institutionnelle au Liban. Avant les élections, il plaide pour une décentralisation, ceci pour dissocier le développement du pays de la politique communautaire. En France, début de la campagne de vaccination contre la grippe, seront vaccinés en priorité les plus de 65 ans et les femmes enceintes. Une grève surprise à la SNCF alors que les vacances scolaires commencent ce vendredi. Enfin, la pièce 17 octobre 1961, je me souviens, de et avec Mohamed Kaki, est présentée samedi à Aubervilliers et dimanche à Épinay. Interview de Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Après la conférence internationale pour la stabilité de la Libye, un groupe de 127 migrants gambiens a quitté le territoire libyen pour la Gambie. C'est le premier vol humanitaire depuis des mois, affirme l'Organisation internationale des migrations. En visite à Tripoli, la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques avait appelé la Libye à accélérer le rapatriement des réfugiés bloqués dans le pays. Elle avait également demandé aux autorités libyennes de libérer les migrants en détention. Le président Kais Saied va lancer un dialogue national sur le système politique dans son pays. Dans un discours prononcé jeudi, le chef d'État tunisien a affirmé que ce dialogue inclurait la jeunesse, mais seront écartés ceux qui volent l'argent des gens et les traîtres, a poursuivi Kais Saied. Au Liban, un changement institutionnel est-il possible à l'occasion des élections législatives prévues en mars 2022 ? C'est le vœu formulé par Hikmat Abou Zeid qui publie « La révolution institutionnelle au Liban » aux éditions Antoine. On écoute Hikmat Abou Zeid.
Le Liban est un pays fragile au niveau de son tissu social et de son tissu politique. Il est composé de 18 communautés. Et ça reste un régime politique basé sur des paramètres confessionnels et communautaires. Et toute la vie politique tourne autour de ça. Les événements, il y a une semaine, qui sont désolants, montrent aujourd'hui encore que le Liban reste un Liban qui sous-risque de sectarisme. Et cela, si vous voulez, compose le problème majeur aujourd'hui pour l'avenir. Aujourd'hui, dans mon ouvrage, je considère, et surtout avant les élections, puisque cet ouvrage-là porte sur la décentralisation, et en l'écrivant, je veux bien que cela soit une matière électorale que les électeurs doivent considérer pour les élections, pour les prochaines élections. Je considère que la décentralisation administrative, le sujet de mon ouvrage, représente la solution institutionnelle et administrative la moins coûteuse dans un Liban fragile qui pourrait effectivement séparer et dissocier le développement économique et social de la politique communautaire qui caractérise notre vie politique. Voilà.
À quoi ressemblerait cette décentralisation administrative ?
En fait, on a fini la guerre en 1990 avec les accords de Taif qui ont réorganisé les compétences constitutionnelles des trois présidents qui sont le président de la République, le premier ministre, donc président du Conseil, ainsi que le président du Parlement. Mais aussi, ces accords ont stipulé, et c'est là que réside en fait l'importance de la décentralisation, ils ont effectivement parlé de la décentralisation administrative comme clause inévitable pour le passage vers un nouveau Liban. Malheureusement, depuis ces accords jusqu'à nos jours, on n'est jamais passé à l'acte et on n'a jamais pu effectivement voir une loi ou un projet de loi se faire voter par le Parlement pour aller dans cette direction-là. Je pense que cette révolution institutionnelle, donc effectivement le titre de mon bouquin, va permettre l'avènement du vrai citoyen, puisqu'aujourd'hui, avec une politique, avec une vie politique très sectaire et très communautarisée, la décentralisation va libérer les citoyens libanais du joug de leurs leaders confessionnels et faire d'eux des citoyens à part entière, puisque, comme vous le savez très bien, dans un pays comme le Liban, ce n'est que le développement social et économique qui va faire qu'on va encourager l'avènement d'une vraie citoyenneté. Aujourd'hui, moi, je parle de sujet libanais et non pas de citoyen libanais, parce que un sujet est une personne qui est en fait soumise dans un cercle infernal de clientélisme qui fait que son leader confessionnel le manipule, son leader confessionnel l'achète, entre guillemets, à travers des services publics qui doivent être en fait des droits inaliénables à lui. Et donc aujourd'hui, avec la décentralisation administrative, on est en train d'effriter le monopole du pouvoir central sur les ressources nationales, et on va effriter en fait cette oligarchie politico-financière qui gouverne le Liban depuis les accords de Taif, et cela va permettre en fait la redistribution des ressources nationales vers les régions, ce qui va permettre effectivement une localisation de la vie politique et par suite une indépendance des citoyens de façon à ce qu'ils puissent voter pour des projets, voter pour le développement et non pas se faire manipuler par des chefs de guerre qui gouvernent le Liban depuis 30 ans.
Vous êtes favorable à un changement aussi sur le mode de nomination des responsables politiques et administratifs qui ne soit plus basé sur l'appartenance communautaire ?
Cela demande au Liban un long parcours, Monsieur Barrière. Il faut être aussi pragmatique dans un pays où la fragilité est la règle, comme je vous le disais. On est tous, surtout suite à la révolution d'octobre, il y a l'avènement d'une nouvelle pensée politique, il y a l'avènement d'une nouvelle classe politique, des gens compétents, des jeunes, qui rêvent, eux, d'un état civil. Et cet état civil est certainement pour cette nouvelle classe politique et cette nouvelle pensée politique un but en tant que tel. Sauf que la décentralisation va permettre graduellement de préparer la société libanaise et la vie politique libanaise vers cet état civil. Aujourd'hui, on ne peut pas passer d'un régime politique basé sur des critères confessionnels automatiquement vers un état civil. Je vois et j'entends beaucoup de forces de gauche, donc des mouvements de gauche, le réclamer et le proclamer bien haut. Je suis totalement d'accord avec cette vision, mais je pense que il faut qu'on la traduise graduellement à travers un processus institutionnel progressif.
Hikmat Abou Zaid, il publie « La révolution institutionnelle au Liban » aux éditions Antoine. L'heure de retirer le masque en entreprise n'est pas encore arrivée, c'est ce qu'affirme la ministre du Travail au journal Le Parisien. Elisabeth Borne justifie cette décision par la légère reprise de l'épidémie de Covid-19, mais aussi l'arrivée de l'hiver. Début de la campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière, une campagne qui a lieu dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Le virus de la grippe a très peu circulé, mais n'a pas disparu, estime Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Seront vaccinés en priorité les plus de 65 ans, les femmes enceintes, mais aussi des personnes atteintes de certaines pathologies comme l'asthme ou le diabète. Tous les soignants sont aussi concernés par ce vaccin. La grève surprise à la SNCF devrait être moins compliquée que prévu. La SNCF a annoncé vendredi qu'elle ferait circuler samedi 8 TGV Atlantique sur 10. Au départ, le groupe ferroviaire avait prévu 2 TGV sur 3, une grève qui coïncide avec le début des vacances scolaires. Enfin, la pièce 17 octobre 1961, Je me souviens, de et avec Mohamed Kaki, est présentée samedi à Aubervilliers et dimanche à Épinay. Interview de Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges.
Cette pièce s'intitule 17 octobre 1961, Je me souviens. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite depuis 2 ans et qui va se jouer dans plusieurs théâtres, et notamment ce week-end, donc le samedi 23 octobre, donc à 20h précisément, à l'espace Renaudy à Aubervilliers, et le dimanche 24 octobre à 16h30, donc à la Maison du Théâtre et de la Danse à Épinay-sur-Seine. Donc voilà, puis il y a plein d'autres dates après, j'ai eu la chance d'être invité dans ces deux lieux pour donc c'est un travail de transmission qu'on fait aussi, parce que c'est le théâtre a aussi pour vocation de transmettre d'une autre manière cette histoire importante de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961 qui s'est terminée par un crime d'État.
Et c'est donc une pièce à vocation pédagogique. Vous incitez les parents à venir avec leurs enfants?
Oui, écoutez, oui, tout le monde peut venir, bien sûr, parce que elle a une dimension évidemment historique, mais elle a aussi surtout une dimension de personnage, de jeu d'acteur, où on s'ennuie pas, quoi, et où il y a des moments aussi même drôles, parce que le théâtre, c'est aussi une manière de faire passer des messages et de l'histoire, et de rester un peu, c'est une écriture un peu à la Heiner Müller, un grand auteur allemand, où on passe aussi du coq à l'âne, et on revient à l'histoire, mais c'est aussi l'histoire singulière de nos vies. Et c'est ça que je voudrais souligner, c'est-à-dire finalement je me suis inspiré de beaucoup de notre vie collective des années 60, lorsqu'on était petit, au milieu des années 60 par exemple, c'est-à-dire les conséquences de la guerre d'Algérie en France, les conséquences du 17 octobre sur nos parents, c'est-à-dire le silence d'une part, mais aussi toute une répression terrible à l'époque où, dans les années, milieu des années 60, nous avions des professeurs qui étaient des anciens d'Algérie et qui, pour l'un d'entre eux, je me souviens bien, nous disaient par exemple, vous êtes des Felagas. Nous qui étions au CP, c'était aussi la période des bidonvilles, et donc je parle du 113 chemin de Chatou, un bidonville historique dans la banlieue nord-ouest de Paris, où beaucoup peuvent s'identifier, s'y reconnaître, et puis c'est aussi l'époque de la toute puissance de la police, où certains d'entre eux, pas tous, mais certains s'autorisaient à être dans cette toute puissance et d'être extrêmement violent. C'était aussi la période de la violence du froid, tout simplement, et du fait de ne pas avoir de l'eau, etc. Mais c'est aussi une période de résistance, de fraternité, de moments chaleureux qui n'existent plus aujourd'hui avec le chacun pour soi. Et à l'époque, il y avait une fraternité collective qui que je reconvoque dans ce texte. Donc c'est un peu la petite histoire dans la grande histoire, l'histoire singulière dans cette histoire de la guerre d'Algérie du 17 octobre 61 et de ce crime d'État, mais qui n'est qu'un point finalement pour moi, parce que il faut revenir à tout ce qui s'est passé dans fin des années 50, fin des années, au milieu des années 60 aussi, la vie était difficile, mais il y avait une résilience, et je tiens à le souligner, parce que pour moi, le 17 octobre 1961, ce n'est pas une histoire du pathos et de victimisation ou de victimes notamment, c'est une mémoire de combat, c'est une mémoire où nos parents se sont dépliés ce jour-là. C'est le corps d'exception, c'est le corps s'est déplié et ils ont dit ça y est, plus jamais comme ça. Et donc ils ne se sont pas laissés faire, nos parents, et donc ils nous ont donné un héritage formidable qui est celui de la dignité pour la justice, l'égalité, la fraternité. Et c'est aussi l'histoire de France. Et ça, c'est très important de le rappeler à nos auditeurs, que cette histoire du 17 octobre 1961 ne concerne pas uniquement les Algériens, concerne tous les Français, parce que, un, ça s'est passé à Paris, de deux, l'Algérie était un département français, et donc c'est une histoire de France, et les Français sont amputés d'une partie de leur histoire, que je tente, à travers ce texte, de leur restituer avec la poésie qu'il faut, avec l'émotion, avec ces interactions de personnages où il y a la... une comédienne avec moi qui s'appelle Sarah Glon, qui est merveilleuse, avec le metteur en scène aussi, Jean-Luc Borg, qui je rends hommage parce qu'il a fait un travail avec nous important. Et aussi dire aussi à toute la jeunesse que le champ des possibles est possible et que il y a du soleil derrière ces nuages, derrière ces choses sombres, etc. Il y a la possibilité de la pulsion de vie. Et que nous pouvons donner à nos enfants, nos petits-enfants, un héritage positif, un héritage de combat, un héritage où la liberté s'arrache, rien ne se donne, tout s'arrache. Et c'est ça le message de fond qu'il y a dans cette pièce de théâtre. Je vous invite à venir toutes et tous.
Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Sa pièce est présentée samedi à 20h à l'espace Renaudy à Aubervilliers et dimanche à 16h30 à la maison du théâtre et de la danse à Épinay-sur-Seine. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Lamia El Haraj, députée de Paris, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.